Ce matin, nous avons célébré le funérail de quelqu'un que vous connaissez, un paroissien fidèle, un homme très pieux qui était toujours là. Cette église était son église. Un homme qui venait, qui me saluait avec un peu de sourire et qui passait discrètement jusqu'à son banc. Norbert, le duc que vous connaissez. J'ai dit à son épouse que je vais raconter son histoire parce que je pense que ça coïncide bien avec le texte d'aujourd'hui et avec le message de ce premier dimanche de l'Avent. Norbert est sorti évidemment avec son épouse et puis ils sont revenus à la maison. Son épouse devait préparer le repas du soir. Et il s'est dit, non, je vais aller faire quelques achats, je vais aller acheter quelque chose. Il a pris sa voiture, il est allé à la banque, il a fait un retrait, il a payé ses factures. Il est allé au magasin, il a acheté une bouteille de vin, il s'est acheté des jus, il l'a mis dans la voiture et il est revenu à la maison. Il est arrivé juste à la porte de la maison et il n'était plus capable de sortir de la voiture. Une voisine le voit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, je appelle ma femme, je ne me sens pas bien. Le temps d'aller appeler sa femme n'était pas là. Pendant que Norbert était parti, son épouse est allée acheter quelques ingrédients qui manquaient. Alors donc, elle n'était pas à la maison. Quand elle est revenue, elle voit son mari dans la voiture. Mais elle se dit sûrement, il vient d'arriver, il va sortir des affaires. Elle entre. Elle continue à faire ses affaires. Et puis, à un moment donné, finalement, ce sont les ambulanciers qui l'ont presque interpellée. Quand elle est sortie de là, son mari était dans la même position qu'elle avait laissée. Norbert était mort devant sa maison, dans sa voiture. On a trouvé le facture, les détails de la banque, sur le siège à côté, la facture était encore là, qu'il avait retiré de l'argent. L'argent était dans la poche de son manteau. On a trouvé le jus, les boîtes de jus à côté de la voiture. Les boîtes étaient encore là, tout ce qu'il avait fait comme achat. Norbert n'a jamais goûté à ça. Il n'a jamais été dans sa propre maison. Cette maison qu'il avait habitée pendant des années. On pense toujours que la mort vient nous surprendre quand nous sommes à l'hôpital. On pense toujours que peut-être la nuit, pendant que nous dormons. Mais la réalité est là, nous le savons, mais souvent nous l'oublions. Ou parfois, nous n'aimons jamais la regarder en face. Mais la réalité est là, ça vient à tout moment nous rappeler que la vie c'est un don. Le seul pouvoir que nous avons sur la vie, c'est quand nous l'avons. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir sur ma vie. Les secondes qui suivent, je n'ai aucun pouvoir, sauf quand cela va arriver. Le jour qui suit, je n'ai aucun pouvoir, sauf si je vois ce jour-là. Le seul pouvoir que j'ai, c'est aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective que la parole de Dieu vient, en fait, nous parler et nous dire, n'attendez pas demain pour vous mettre en ordre. Le pouvoir que vous avez, c'est pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez mettre l'ordre dans votre vie. C'est aujourd'hui que vous devez mettre l'ordre dans vos relations. C'est aujourd'hui que vous devez mettre l'ordre dans vos pensées, dans votre cœur. Aujourd'hui, demain ne vous appartient pas, même pas les instants qui vont venir. Ça ne vous appartient pas. Nous avons tous vécu des expériences comme ça, où nous avons été parfois révoltés, parfois surpris, simplement. Mais ce n'est pas possible, j'ai parlé avec la personne hier. Je suis allé à New York prêcher la retraite. Une dame qui est venue ici, de New York jusqu'ici avec ses deux enfants, me voir parce qu'ils avaient des problèmes de santé pour la prière. On a prié avec pendant 3 jours. Elles sont retournées à New York, Dieu merci. Les deux enfants étaient totalement guéris, même le médecin n'en revenait pas. Je retourne à New York cette année et j'arrive là-bas. L'ami de cette femme vient me voir et me dit, mon père, est-ce que vous pouvez m'accompagner à l'hôpital? J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est important que vous m'accompagniez à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital, qui je vois? Cette dame-là. Elle était dans le coma. Elle était dans le coma. Je demande à ses deux filles, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, on a parlé avec maman hier et ce matin. Quand on est arrivé, d'habitude, c'est elle qui descend le premier, la première pour faire le café. Elle ne descendait pas. On est allé voir. Elle n'allait pas bien. Le temps d'appeler l'ambulance, on est arrivé à l'hôpital. Elle ne parlait plus jusqu'en ce moment. Elle était dans cet état. Je l'ai laissée dans cet état. La vie nous appartient juste au moment présent. Demain ne nous appartient pas, sauf si nous arrivons demain, chers frères et sœurs. Le message de l'Avent, c'est un message qui prépare le peuple de Dieu à accueillir la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, cette première venue a déjà eu lieu. Donc, même quand nous revenons dans le contexte de l'Avent, nous savons que, en fait, il s'agit de la deuxième venue que nous avons proclamé à travers la fête de Christ roi. La dernière fête liturgique de l'année nous rappelle cela, que Christ doit venir pour régner, établir son royaume ici sur la terre. Mais nous ne savons pas exactement quand. Il lui-même a dit, vous verrez simplement les signes. Et quand vous verrez ces signes-là, redressez la tête. Convertissez-vous. Le temps de l'Avent, ce n'est pas juste la crèche. Jésus est déjà né 2000 ans. Le temps de l'Avent, c'est un rappel qu'il y a un retour qui va se faire. Et ce retour-là, ça ne sera plus un enfant que nous allons accueillir dans une crèche. Ce retour, ça sera un roi que nous allons accueillir et qui sera là pour juger. Voilà pourquoi le premier dimanche de l'Avent nous invite à la vigilance, veillez, parce que vous ne savez pas quand il viendra. Veillez. Chers amis, chers frères et sœurs, en tant que pasteur, je pense qu'il y a un point très important sur lequel nous devons veiller. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Proverbes, notre cœur, c'est comme un cercueil qui renferme beaucoup de choses, de bonnes choses comme de mauvaises choses. Il y a des choses qui sont dans notre cœur que les gens n'ont jamais su, que la bouche n'a jamais dite. C'est important, pendant le temps que Dieu nous donne, et où nous avons un pouvoir sur nous-mêmes et sur notre vie, de mettre de l'ordre dans notre cœur. C'est-à-dire, surtout, d'apprendre à donner le pardon et apprendre à accepter le pardon des autres. Quand je suis arrivé au Canada, la première chose qui m'avait frappé, j'étais à Bourgette, à Saint-Pascal-Bélon. Les élèves m'ont invité à leur manifestation. Et là, ils avaient organisé une danse qu'on appelle danse carrée. Et je devais danser avec tout le monde. Mais ce que j'ai remarqué dans cette danse, c'est qu'on se cogne souvent. Vous vous tournez et parfois vous donnez des coups de coude avec quelqu'un d'autre. Même si ça lui a fait mal, mais à cause du contexte, il vous sourit. Je pense que notre vie est faite comme cela. Nous ne pouvons pas simplement marcher de façon linéaire. À certains moments, tournant dans notre danse de la vie, parfois nous cognons les gens qui nous aiment et des gens que nous aimons. Ça peut arriver à tout le monde de donner un coup, volontairement ou involontairement. Ça peut arriver à tout le monde. Mais la différence pour les enfants de Dieu et l'élévation que cela implique, c'est leur capacité de pouvoir non seulement demander pardon, mais aussi apprendre à accepter le pardon que les autres nous demandent. Et sur ce point, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui viennent tout le temps à l'église n'ont jamais mis de l'ordre sur ce point du pardon. C'est dommage de voir des familles entières lors de funérailles qui ne peuvent pas se mettre ensemble même à des moments décisifs, parce qu'ils n'ont jamais eu le temps, non seulement de demander pardon, mais de se donner le pardon. Chers frères et sœurs, veillez. N'attendez pas, je vous le dis souvent avec tout mon cœur, vous pensez peut-être que j'exagère, une messe, même de funérailles, ne peut pas changer votre destinée quand vous-même, au moment où vous aviez le pouvoir de décider, vous avez refusé de prendre la décision. Quand vous avez le pouvoir de décider, on vous dit pardonnez et acceptez le pardon. Vous refusez vous-même jusqu'à la fin. Ce n'est pas une messe qui va venir changer votre décision. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. N'attendez pas juste une messe de funérailles. Ça ne changera absolument rien si vous, vous-même, vous ne décidez pas à cause de la vigilance de préparer votre cœur et de l'aligner à la pensée de Dieu. Je vous l'ai dit, chers frères et sœurs, le problème du pardon dans notre cœur, dans nos relations, dans nos familles, ça pose un grand problème, même chez nous les chrétiens. Nous avons besoin de nous délier, nous avons besoin de délier les autres. Dans la première lecture, nous avons entendu, la parole de Dieu nous dit, personne n'invoque plus ton nom et nous n'arrivons plus à te prier. Pourquoi la parole de Dieu dit, nous sommes devenus des gens impurs, nos actes juste ne sont que des linges souillés. Nous sommes desséchés comme des feuilles et nos fautes comme le vent nous emportent tous. Nous faisons cette expérience dans notre vie et alors nous ne sommes plus capables d'invoquer le nom de Dieu. Nos décisions sont prises à cause de notre caractère, à cause de notre culture et jamais en fonction de la parole de Dieu. Veillez, car vous ne savez ni le jour, ni le jour, ni l'heure. Veillez, c'est mettre de l'ordre dans notre vie, chers frères et sœurs. Ne revenons pas à cette fête de Noël par habitude. Ne revenons pas à célébrer cette fête de Noël en comptant les semaines et les dimanches que bientôt Noël. Non, le message de cette année, c'est différent. Jésus est né, mais il revient. Et il revient comme un roi. Et la parole de Dieu dit, il séparera les hommes en deux camps. Et il dira, venez, entrez le béni de mon Père. Et il va dire aux autres, éloignez-vous de moi, le maudit. Vous aviez écouté la parole de Dieu. Je vous ai supplié pour mettre de l'ordre dans votre cœur. Je vous ai supplié pour insister la valeur du pardon. Jusqu'au bout, vous avez endurci votre cœur. Vous avez refusé ma parole. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Mais le message d'aujourd'hui, c'est vraiment justement pour que nous ne soyons pas éloignés de Dieu. C'est pour que nous puissions nous préparer justement pour que ce jour-là, nous puissions être sans crainte, que nous puissions être dans la paix, dans la joie, en sachant que, en fait, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons notre Sauveur. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons notre Roi. Notre Roi. Parce que nous lui appartenons. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui. Qu'on puisse dire de nous, comme dans la deuxième lecture, rendre témoignage parce que la parole de Dieu a été effective dans notre vie. Qu'on puisse rendre témoignage parce que la parole de Dieu nous a rendus riches individuellement, mais aussi communautairement. Qu'on puisse voir tous les dons du Saint-Esprit, qu'on puisse voir les fruits de l'Esprit à travers notre vie, à travers notre communauté, alors nous pourrons nous dire enrichis à cause de la parole de Dieu. Et ce jour-là, nous serons sans crainte. Ça sera un jour de joie. Nous allons nous unir à la cour céleste pour chanter le Seigneur et pour glorifier sa présence. Ce que nos yeux n'avaient pas encore vu, nous l'aurons vu. Ce que nos oreilles n'avaient pas encore entendu, nous l'aurons entendu ce jour-là. Et ça sera un jour de joie. En ce premier dimanche de l'Avent, préparons notre cœur à la vigilance, que rien ne puisse nous détourner de cette promesse de Dieu, que rien ne puisse nous détourner de cet héritage que le Seigneur a préparé pour nous. Amen.
En ce jour de votre 29e anniversaire d'ordination, nous, la communauté Saint-Pierre-Apôtre, tenons à vous féliciter et à vous assurer de notre prière. Un bon pasteur, disait le curé d'Ars, est un pasteur selon le cœur de Dieu. C'est là le plus grand trésor que Dieu puisse accorder à une paroisse et un des plus précieux dons de la miséricorde divine. Cette grâce de sacerdoce nous permet avant tout d'évoquer avec tendresse et reconnaissance l'immense don que sont les prêtres, non seulement pour l'Église et notre communauté, mais aussi pour l'humanité entière. On comprend le mot de Jean-Paul II qui disait à ses prêtres, « On veut voir Jésus à travers vous. » Lorsqu'un prêtre entend cela, il ne peut que s'émerveiller du don qu'il a reçu le jour de son ordination, mais aussi l'abîme entre ce qu'il est et le don reçu. Un prêtre, un saint prêtre, est pour une communauté le plus beau don que le Seigneur puisse lui faire. Merci François d'avoir répondu à cet appel. Je vous invite à vous lever. Veuillez tendre la main vers François. Je vais réciter un texte de bénédiction. Seigneur, tu as appelé François au ministère sacerdotal en un moment concret de son histoire pour qu'il soit témoin des merveilles de Dieu. Il a été saisi, il a été fasciné par toi, par amour. Que ton esprit le couvre de tes bénédictions afin qu'il soit toujours un évangile vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Félicitations.